Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du lundi, le podcast consacré au foot. Du point est diffusé tous les lundis, au podcasting de cette troisième émission, que des losers. Voilà, il faut parler vrai. Il est sixième de Serie A, le Turinois, Julien Rebucci. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde.
Match horrible hier de la Juve.
Match compliqué, mais on y reviendra, ce n'était pas le pire du week-end.
Il est douzième de Ligue 1 et il est à la VAR, l'Alsacien Thomas Strasbourgeois Müller.
Douzième, c'est pas si mal. Pour Strasbourg.
Avec une défaite ce week-end.
Oui, bah, on a failli coincer Rennes chez eux quand même.
Contre l'excellent Stade Rennais,
oui,
qu'on ne présente plus.
Irrésistible.
Avec Pep Genesio.
Pep Genesio.
Un génie.
Roi premier de Bretagne.
La famille.
Mais alors il fait le malin, mais il est 17ème de Ligue 1, le Bordelais. Adrien Mathieu, bonjour Adrien.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
On avait un petit pari, enfin on avait une petite discussion avant l'enregistrement du podcast. Combien de victoires de Bordeaux en phase aller?
Je pense qu'on va essayer d'aller en chercher deux ou trois de plus. On a notamment des matchs contre Troyes et Reims qui nous attend. C'est notre championnat, voilà.
Ah, GG Lopez, il ne fait pas de miracle. Hein.
Non, malheureusement, il ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que la construction de l'effectif va prendre beaucoup plus de temps que prévu, je pense.
Alors, petit rappel du concept, même si les chiffres sont indécents, le triomphe du podcast ne se dément pas. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, carton jaune ou carton rouge. On a beaucoup de choses à dire parce que c'était un week-end avec beaucoup, beaucoup de chocs. Bon, certains ont préféré regarder le Grand Prix de Formule 1, c'est leur choix et on ne les juge pas. Et on va commencer par, alors, je vous dis un tacle. Je pense qu'il va y avoir une pluie de cartons rouges. Julien.
Alors, j'aurais pas besoin d'une minute pour ce tacle. Il va être clair, net, concis. Je vais revenir sur la médiocrité générale de notre Ligue 1, à l'image de notre classique OM-PSG dimanche soir. Un 0-0 de bien terne facture. Des joueurs indigents, peu d'action, peu d'ambiance, peu d'intérêt finalement à ce match-là. Alors qu'on avait un superbe dimanche qui nous offrait des gros matchs entre le Manchester-Liverpool, le Inter-Juve et le Real Madrid-Barcelone en Espagne. Bah voilà, nous on a eu OM-PSG qui était indigent. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, d'accord, mais ce que je voulais dire, j'en ai marre d'entendre parler à chaque fois des 5 grands championnats européens. J'ai un petit peu travaillé pour ce tacle, contrairement aux autres semaines. Je suis allé voir juste le coefficient UEFA de la France, il est de, à votre avis ?
Ah, aucune idée.
Bon, 48 081 points. Sachant que l'Allemagne, qui est quatrième, est à 64 927 points et que l'Angleterre, en première position, est à 92 355 points. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la France aurait regardé dans son rétroviseur plutôt que les quatre premiers gros championnats européens, c'est-à-dire le Portugal, qui a 46 216 points, soit moins de 2000 points d'écart avec la France. Mais peut-être encore regarder plus bas, les Pays-Bas avec 38 100 points, l'Autriche avec 34 050 points, et l'Écosse avec 32 100 points, semble plus dans le giron de la France que les quatre gros championnats européens. Voilà, c'était un espèce de petit coup de gueule suite à cette purge de classiques ce week-end, et ça fait toujours du bien de le dire. Merci.
Alors on sait qu'il y a peu de gens qui peuvent regarder la Ligue 1, puisque c'est diffusé sur une plateforme que personne n'a, hein. On le rappelle, il n'y a pas de chiffres. Mais je pense que Julien n'a pas vu la Ligue 1 depuis le début de saison, n'est-ce pas Adrien?
Ah, je suis désolé Julien, mais c'est un gros carton rouge avec, je pense, une commission de discipline qui s'annonce salée, parce que voilà, au-delà du classique, le niveau de la Ligue 1 est quand même plutôt bon depuis le début de la saison. On voit beaucoup d'équipes avec du jeu, avec des entraîneurs qui ont des idées. Même sur la scène européenne, hein, finalement, la France s'est réveillée, je pense notamment aux résultats en Europe Europa League, voire en Conference League, où on a enfin des équipes qui osent, qui ne mettent pas leur équipe bis. Maintenant, voilà, ce classique n'a pas tenu toutes ses promesses, mais en termes d'ambiance, on a vécu un vélodrome incandescent, plébiscité à l'étranger par des Espagnols, des Argentins qui n'en reviennent pas de voir voilà, cette espèce d'ambiance de furie. C'est sûr qu'on est un peu déçus, parce qu'on va y revenir, mais le niveau du PSG n'est pas totalement conforme à nos attentes. Que ce Marseille de Sampaoli aurait pu un peu plus pousser, n'oublions pas que quand même c'est une équipe qui a encore, je pense, en rodage, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Maintenant, voilà, regardons la Ligue 1. Hier à 13h, on a eu un Nice-Lyon exceptionnel, avec un renversement de situation. On a beaucoup de matchs cette saison, où finalement le scénario n'est pas défini à l'avance. On peut avoir des surprises. Ce qui est un peu dommage quand même, c'est que le PSG compte voilà, une vraie avance au classement, alors que voilà, je pense qu'en termes de contenu, c'est pas tout à fait ça. Et on aurait pu aller challenger notamment bah, voilà, ce Marseille, voire Lyon, qui, je pense, va avoir beaucoup de regrets à l'issue de la saison. Mais Julien, cette Ligue 1 2021-2022 mérite son titre de championnat du siècle.
Tu me donnes de. Tu as peur de l'homme en moulin, parce que tu me parles de Conference League, d'Europa League. J'ai pas une excellente mémoire, mais il me semble qu'il y a 10 ans, on se gargarisait pour les résultats de Lyon en Ligue des Champions, non pas dans une coupe que personne ne suit effectivement.
Oui, là c'est le PSG qui brille en Ligue des Champions aussi.
Ah, il brille en Ligue des Champions, le PSG.
Bah, demi-finale l'an dernier quand même. D'accord. Lyon n'est pas allé en demi-finale, est allé une fois.
Ça allait une fois en demi-finale aussi.
Oui, voilà. C'est tout.
Bah, deux fois. Bah, au moment du Final 8.
Ah non, mais ça c'est le PSG, ah. Deux fois. Mm. Mais Lyon, ils sont allés une fois
en. Une fois en 2010, une fois lors du Final 8. Ouais. Ouais.
Mais Lyon n'est allé finalement qu'une fois en demi-finale de la Ligue des Champions. Moi j'ai envie de vous mettre un carton jaune, Julien. Parce que je vais séparer deux choses. Je pense que sur le niveau de la Ligue 1, on voit quand même des matchs spectaculaires depuis le début de la saison.
Je n'ai pas dit le contraire.
Le multiplex du dimanche est formidable, vraiment on ne s'ennuie pas. Le Nice-Lyon était absolument étourdissant. Les chocs sont plutôt bons, sauf sur ce OM-PSG, même si la première mi-temps était plutôt sympathique, la deuxième moins, mais on ne s'ennuie pas. Vous êtes un peu sévère. Bon, après, sur les performances européennes, oui, notre championnat ne brille pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La France n'est pas un pays de foot. Faut vous l'apprendre, ça ?
Si on se place du point de vue français, oui, on a le meilleur championnat, mais ça s'arrête là, quoi.
On est champion du monde du championnat français.
Voilà. Non, mais citez-moi un bon match du PSG cette saison.
Non, mais ça, c'est...
Qui est censé être notre locomotive.
Ils ne respectent pas le conducteur, c'est incroyable, hein.
Non, si, mais contre City c'était pas mal, mais en Ligue 1 c'est vrai que c'est mauvais. Oui.
Non mais la Ligue 1 ne tourne pas autour du PSG.
Locomotive.
D'accord, mais j'aimerais bien voir l'état du football français en Europe sans le PSG.
Non mais regardez la Ligue 1 avec les matchs de Marseille, les matchs de Lyon, les matchs de Nice, Monaco qui revient.
Lens.
Je suis d'accord, mais j'imagine que les supporters ukrainiens sont très contents de leur championnat aussi.
Adrien.
Non. Je pense qu'il faut être quand même assez réaliste et pragmatique sur cette Ligue 1 qui est passée quand même très près du gouffre après le fiasco Mediapro et cette question des droits télé. On a l'impression que beaucoup, beaucoup de clubs allaient un peu vers la catastrophe. Et mine de rien, on a le sentiment que, au lieu de tomber dans la déprime et chercher des solutions à tout va en vendant leurs joueurs à dernière minute en Angleterre, il y a beaucoup d'équipes qui finalement passent par le jeu pour s'en sortir. Et voilà, c'est le cas de Lens, quoi, qui a un coach assez enthousiasmant avec Francaise, qui se dit, voilà, il est intervenu dans une émission en disant, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Est-ce qu'on va jouer les 38 matchs en parquant le bus ou est-ce qu'on va essayer d'imposer notre jeu ? Et je pense que c'est une ligne conductrice que beaucoup de clubs de Ligue 1 essayent de suivre. Voilà, je compte pas beaucoup d'équipes qui ont quand même voilà, un contenu dérisoire ennuyant. Je pense que les 5 derniers, allez, c'est quand même assez inquiétant. Mais sinon, tout le reste, on peut se dire, allez, le LOSC quand même qui est champion en titre, c'est pas fantastique, faut le reconnaître. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui, je trouve, ont élevé leur niveau de jeu. Maintenant, ça doit se traduire par des résultats en Europe. Commençons d'abord par l'Europa League parce que c'est une compétition qu'on n'a pas remportée. Et ça fait quand même tâche. Quand je vois les bonnes dispositions de Lyon, de Monaco, Marseille dans le contenu, c'est bien, dans les résultats, ça pourrait être mieux. Mais je me dis, commençons par ça, une Europa League, avant d'aller chercher une Ligue des Champions. Parce que tu l'as dit, il y a le PSG, mais derrière, dès qu'on envoie une équipe, c'est casse-gueule. On a un Marseille qui ne fait que 3 points la saison dernière. On sait que Lille, ça n'a pas forcément dépassé ce bilan comptable. Donc commençons d'abord par l'Europa League avant de viser plus haut.
Mais vous dites la même chose que moi, c'est magnifique.
Non, parce qu'il y avait un biais sur votre. Sur votre début de tag, de toute façon, vous êtes l'anti-France, Julien. Vous n'aimez pas le championnat français, vous n'aimez pas le foot français. Vous préférez le foot italien. Qu'avez-vous regardé hier ?
Interviewé.
Merci. On va passer au... Non, on va demander à la VAR si la VAR... la VAR a peut-être tranché.
Non, mais je crois qu'on peut donner seulement un carton jaune à Julien. Disons que j'ai lu un papier en Espagne, apparemment. Il y a 5 rencontres de Ligue 1 qui sont diffusées par an, dont ce classique.
Tout à fait.
Quand on voit la portée, enfin le niveau de ce classique, c'est quand même à déplorer pour l'image de la Ligue 1. Alors qu'elle soit mauvaise ou pas, en tout cas, on en donne une très mauvaise image hier soir.
Bon, après, on en parlera un peu plus tard, mais vous critiquez beaucoup le OM-PSG, le Barça-Real, c'était pas mieux. Hein. Voilà. Si on parle d'un classique et d'un choc, le Manchester-Liverpool était quand même à un potentiel plus fort que les deux matchs, que les deux autres matchs. Donc voilà.
C'est vrai, même si c'est plus.
On coupera, c'est vrai, hein, bien sûr.
Non, mais de la même manière, Barça-Real n'a plus la même envergure depuis que Messi et Ronaldo sont plus là, de toute façon.
On en parlera. Alors là, c'est au tour d'Adrien qui va tacler nos amis du PSG. Ben ça oui. Change.
On peut être leader incontesté en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais quand même, arrêtons de nous voiler la face. Ces très bons résultats du PSG ne pourront pas masquer éternellement le contenu assez médiocre depuis le début de saison. Je pense que cette vision d'épicier va leur revenir à la figure à un moment donné. Quand je vois le Bayern, Liverpool ou même l'Ajax, je me dis que le chemin est très long pour les hommes de Mauricio Pochettino. Son PSG est d'ailleurs bien triste et ne met pas en lumière le fameux Mercato XXL qui a agité la planète football cet été. À Tottenham, son équipe était cohérente et les individus étaient parfaitement rodé. À Paris, il n'y a eu aucun progrès en 10 mois. Alors, cibler l'entraîneur, ça paraît quand même une évidence, mais après avoir vu Tourelle rebondir brillamment à Chelsea, on peut se poser une question qui revient sans cesse. Le compromis et les efforts réclamés sont-ils possibles avec ces joueurs-là? L'association, par exemple, des 4 stars, elle ne marche pas. On l'avait déjà vu à Rennes, tout simplement parce que voilà, Neymar n'est plus que l'ombre de lui-même. Messi est positionné sur un côté en pur ailier alors qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Et Di Maria reste le premier sacrifié derrière ses 3 camarades alors qu'il a un immense vécu avec cette équipe. Mbappé limite la casse mais reste trop esselé. Ça tourne un peu à la caricature. Alors oui, il y a eu, on l'a dit, ce match à peu près référent cette saison contre Manchester City qui a tout de même dominé cette rencontre, ne l'oublions pas. Les joueurs qui ont eu un impact ce soir-là, ce sont Gueye et Herrera, deux joueurs de l'ombre qui font le job sans caprice. La solution est peut-être là, un PSG moins strass, moins paillettes pour échapper à une nouvelle désillusion au printemps prochain en Ligue des Champions.
Julien.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Adrien. On le dit semaine après semaine, ce PSG n'a pas de plan de jeu. J'en voudrais même plus à l'entraîneur, parce qu'on se rend bien compte que Emery s'est cassé les dents, il a réussi après. Tourelle s'est cassé les dents, il a réussi après. Pochettino est en train de se casser les dents, il réussira peut-être après, ça, on ne le sait pas. Non, c'est une équipe de divas, a priori des joueurs à qui on ne peut rien dire sur le terrain, au niveau tactique, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être la seule erreur de l'encadrement du PSG, c'est de ne pas avoir choisi Mbappé comme tête de gondole de construction de l'équipe. Mais juste pour revenir sur ce mercato XXL dont tu parlais, l'une des rares satisfactions était Hakimi, et on voit clairement que le positionnement de Messi à droite l'a complètement annihilé. Ils sont plus capables de se trouver tous les deux, et c'est depuis que Messi est à droite que Hakimi fait des mauvais matchs avec le PSG. C'est qu'un exemple parmi d'autres que ça ne fonctionne pas actuellement. Je vois même pas comment ça peut fonctionner autrement, à part licencier Neymar. Je vois pas comment faire en fait. Bon courage, Mauricio.
Non, bah, t'as entièrement raison, Adrien. Enfin, c'est un débat qu'on a depuis, je pense, Ancelotti.
Oui.
Ancelotti n'a pas réussi. Laurent Blanc n'a pas eu des résultats européens, mais au moins, il y avait un fond de jeu qui était intéressant. Mais sinon, Tourelle, Emery, c'est toujours le même débat. Ce sont les joueurs qui commandent. Les joueurs vont voir Nasser pour exiger un tel privilège ou un autre. Bon, ben voilà, écoutez, on avait dit que mais empiler les bons joueurs, ça ne suffisait pas. On l'avait dit avant le début de la saison. Bon, ben tout ça est une confirmation. Le PSG devrait s'inspirer de Manchester City. Alors, Manchester City a autant dépensé, voire plus, que le PSG, mais au moins, il y a un petit fond de sauce de jeu. Mais je ne suis pas sûr que si vous mettiez, par exemple, Guardiola, il puisse imposer son fond de sauce de jeu. Donc, c'est un club qui est vicié, c'est un club qui...
C'est le Disneyland de PSG.
Voilà, c'est le Disneyland de PSG. Et en fait, le foot n'est pas la priorité principale des dirigeants, on le répète. Quand vous embauchez Sergio Ramos, Beckham et toute la clique, et même, j'ai envie de dire, Messi, quand vous pensez que vous allez construire une équipe avec un joueur qui a 34 ans, c'est que vous ne croyez pas dans le football, vous croyez dans le marketing.
C'est un peu ça, et tu l'as dit justement sur la projection, l'avenir de cette équipe, Kylian Mbappé en fin de contrat... en juin prochain, et quand on voit son niveau et surtout celui de ses camarades offensifs depuis le début de saison, il y a de quoi être très inquiet pour la suite du PSG. Je sais pas comment ils vont pouvoir rebâtir cette équipe, et on parle d'entraîneur, il y en a un qui pour moi pourrait arriver et bousculer l'ordre établi. Julien le connaît bien, c'est Antonio Conte, parce que lui il a la poigne, lui il oserait bousculer les divas, ça ferait des dégâts. Peut-être qu'à un moment Nasser dirait non, on peut pas aller aussi loin, mais c'est le seul qui les statuts c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Lui il a une vraie vision tactique, il sait comment modeler ça. Si même lui n'arrive pas au PSG, je pense que c'est peine perdue.
Compter au PSG, c'est une saison, pas deux.
Moi, c'est même 6 mois, je pense.
Peut-être, ouais.
Non, mais c'est quand même terrible d'avoir ce constat-là, quoi. C'est-à-dire que le club a dépensé près d'un milliard et n'apprend pas de ses erreurs. Pourtant, on le dit saison après saison. Enfin, vous avez vendu... Emery, c'est l'homme à poigne, c'est pas comme Laurent Blanc, etc. Bon, bah, raté. Tourelle, qui était le même profil qu'Emery, on a dit non, mais Tourelle, c'est à l'allemand, tout ça, ça a raté. Et Pochettino, c'est pareil, quoi.
Oui, vas-y, Julien.
Non, c'est juste qu'il leur faut un DRH, pas un coach.
Non, mais pareil, tu vois, tu l'as dit, Pochettino, quand il est arrivé, tout le monde s'enflammait en disant au niveau de la discipline, de ce qui va se passer à l'entraînement, c'est inédit, vous allez voir, un management à l'anglaise, ils vont être cadrés. Finalement, on se rend compte que ça marche toujours pas. Et malheureusement, j'ai l'impression que chaque semaine, on revient sur le bonhomme. Mais aujourd'hui, Neymar, je pense qu'il faut le mettre au repos, il faut faire quelque chose, parce que hier soir, franchement, ça m'a fait de la peine. Et encore une fois, on a le sentiment qu'il fait ses matchs avec le PSG pour arriver peut-être un peu à un pic de forme avec le Brésil, où il est vraiment bon, il faut le dire, il est bon avec le Brésil, mais derrière avec le PSG il n'enchaîne pas et ça devient quand même problématique.
Il faut le mettre au repos, il était au repos hier sur la pelouse, non?
No comment. J'ai regardé un autre match.
La VAR va être d'accord avec ça.
C'est entièrement licite, évidemment. J'applaudis même l'ensemble des tacleurs pour leur œuvre.
Il faudra qu'un jour on invite peut-être un supporter du PSG pour que la défense... Parole à la défense.
Non, mais je pense que même les supporters du PSG sont globalement conscients de ça.
Un supporter de Neymar.
Oui, peut-être.
Non, mais ils sont très contents, les supporters du PSG. Attendez, le Parc des Princes est rempli, il n'y a jamais de sifflet, il n'y a jamais de pancarte. C'est formidable, ils sont contents, ils ont leur star.
Est-ce vraiment des supporters, Florent?
C'est un autre débat. Alors moi, je vais vous parler d'un club... Vous savez, une équipe qui se vendait avec ce slogan « plus qu'un club ». Vous savez, un club qui refusait de mettre un sponsor sur son maillot, qui avait une belle éthique, mais qui a fini par le faire. Vous savez, un club qui vantait son côté familial avec sa puissante Masia et qui, depuis 2 ans, multiplie les recrutements étonnants, voire incompréhensibles et hasardeux. Vous savez, un club qui défendait une certaine idée du jeu et qui, depuis 2 ans, on peine à reconnaître le célèbre foot total cher à Cruyff. Bref, je vous parle bien sûr du FC Barcelone qui s'est totalement perdu. Et on peut remercier Messi parce que son départ a montré que ce club va mal. Et qu'en fait, Messi portait à lui tout seul un club en déshérence. Alors, le Classico a mis en lumière le vide et la chute du Barça. Caricatural dans son jeu, jamais dangereux, 2 tirs cadrés. Vous vous rendez compte? Le Barcelone, 2 tirs cadrés. Les Barcelonais ont affiché une pauvreté technique qui fait de la peine. Jordi Alba, qui était l'âme de cette équipe, il ressemble à un robot qui fait des allers-retours, mais ce n'est plus dangereux, ça ne sert plus à rien. Et il erre dans son couloir, ça fait peine à voir. Donc je me dis, moi je suis très inquiet pour cette équipe qui n'avance pas. Il n'y a pas de sentiment de révolte, qui brise même les joueurs talentueux, on l'a vu avec Griezmann. Et comme il faut mettre un peu de culture dans cette émission, qui en manque un peu, j'aimerais pasticher Valérie, non pas François, hein, Paul Valérie, et dire que maintenant, nous savons que même les grands clubs sont mortels.
Bravo.
C'est beau.
Julien.
Je suis assez d'accord avec toi, Florent. Il n'y aura ni tacle, ni carton. Je vais même aller plus loin. Je pense que on se trompe beaucoup sur le FC Barcelone. Enfin, moi, je le pense à titre personnel. Il y a quelques grands clubs en Europe qui sont ce que j'appelle des institutions. C'est-à-dire que là où le club est au-dessus des joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, la Juventus. Mais Barcelone n'en fait pas partie. C'est une équipe qui a déjà connu des très bas, qui a connu des très hauts, mais qui s'est reposée pendant un moment sur une génération plus qu'exceptionnelle, les Xavi, Busquets, Iniesta et Messi. 4 joueurs qui arrivent au même moment comme ça à maturité, c'est du jamais vu, je pense, dans le football. On l'oublie peut-être un petit peu. Sans eux, le Barça a été beaucoup moins bon. On l'a vu avant, on le verra sûrement après. Je pense qu'ils sont dans un passage comme ça assez négatif, mais qui est attendu suite à la perte des joueurs mentionnés juste avant. Non, il n'y a pas de surprise en fait. Je pense qu'ils sont, ils sont dans un creux et il va falloir attendre qu'il y ait un renouvellement.
Bah, oui, Florence, c'est un plébiscite. Hein. C'est difficile de ne pas être d'accord sur le Barça. Et même, tu as dit les recrutements hasardeux depuis 2 ans. Je remonterai à même bien avant. Hein, quand on parle, par exemple, des Coutinho, des Dembélé, des Griezmann, des Paulinho, ce sont des joueurs, tu vois, tu dis, quand tu les prends, ça peut être sympa. Mais en fait, c'est des joueurs contre nature qui ne correspondent pas finalement à cet ADN du Barça. Et je pense justement que le Barça, c'est une institution par son jeu, par sa filiation Cruyff, sa formation, et on a trop tendance à le renier, des fois on surinterprète ça, mais je pense vraiment que c'est essentiel, c'est important, et c'est vrai qu'hier quand on voit l'équipe du Barça, on a le sentiment qu'on dit chaque année c'est pire, mais là j'ai l'impression vraiment qu'elle a touché le fond, et par exemple bah, j'ai pas envie de flinguer un jeune joueur, parce que ça fait toujours un peu de peine, mais le Eric Garcia qui était 7ème, 8ème dans la rotation à Manchester City, qui devient titulaire comme ça, qui a un peu les pleins pouvoirs de la défense, moi ça m'inquiète, ça m'interpelle, je pense qu'il n'est pas du tout prêt comme ça pour ce rôle-là. Et ce Barça, voilà, file tout droit vers le mur. On sait qu'en plus, financièrement, c'est compliqué. En termes de solutions pour Ronald Koeman, pour les joueurs, ça devient très tendu. Et quand on voit encore plus la pression qui est mise sur Ansu Fati, très bon jeune joueur au demeurant, mais une pression phénoménale en termes de communication sur ce retour. Voilà, c'est l'élu, alors qu'il a quand même moins, je pense, de 50 matchs professionnels, sans dire long sur la décadence de ce club.
Et alors, on en parlait également avant l'émission, parce que nous parlons avant l'émission, et parfois les débats sont plus intéressants avant l'émission que pendant. On va vous le dire, un jour on s'enregistrera. Tu disais, Adrien, en fait, Manchester United, Barcelone, même combat, quoi.
Alors, c'est vrai que ça peut paraître fou, parce que quand tu regardes les deux effectifs, Manchester United a quand même une longueur, voire deux d'avance sur le Barça. Mais en termes de résultats, de fond de jeu, on est sensiblement sur le même destin un peu funeste, parce que on voit une équipe de United qui a recruté quand même Cristiano Ronaldo avec une assurance de but, mais quand on voit l'énervement de Ronaldo et même de Pogba qui tout simplement pète un câble, qui n'arrive plus à contrôler leur nerf, on sent qu'il y a quand même beaucoup de nervosité dans ce Manchester United. C'est vrai qu'il y a un flux de nerveux qui est assez incroyable avec cette équipe, les renversements de situation, Ligue des Champions, tout ça, c'est génial, mais je pense que les joueurs perdent beaucoup justement de cette concentration, et surtout on voit un Soldier sur le banc qui n'arrive pas à trouver la solution tactique. Je pense qu'il a beaucoup vécu sur la fameuse remontée à Paris, son arrivée un peu le ce qu'il était, hein, un super sub, pareil, le remplaçant iconique qui sauve son club, mais aujourd'hui on attend beaucoup plus de lui, surtout vu l'effectif, enfin quand même Rashford, Sancho, Martial, Greenwood, Ronaldo, Bruno Fernandes en attaque, United devrait être concurrent de Chelsea, Liverpool et City largement, et aujourd'hui on se dit que s'ils assurent la 4ème place pour Ligue des Champions, c'est quand même pas mal.
Le problème, c'est leur défense. Hein. C'est,
oui, Maguire, ouais. C'est terrible. Hein.
Maguire qui a coûté quoi, 90 millions d'euros, pas loin, peut-être même plus.
Maguire a beaucoup de mal à revenir après son bon euro, parce que l'euro était bon, et j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête, où voilà, il y a un nouveau statut, il n'arrive pas à assumer, et Varane en plus est blessé, Wan-Bissaka et Luke Shaw ont beaucoup de mal.
Luke Shaw aussi, qui a fait un euro extraordinaire, et là, qui est méconnaissable.
Ils ont beaucoup de mal, et c'est vrai que cette équipe, il y a beaucoup de failles, et on se demande comment est-ce qu'il peut trouver la solution, et moi je pense que malheureusement on se dirige vers la fin de Soldier, quoi qu'il arrive.
Bon, à leur décharge, avoir rencontré Liverpool actuellement, c'était très très compliqué, parce que Mohamed Salah est peut-être encore plus fort qu'il ne l'a jamais été en ce moment, c'est quand même assez phénoménal.
Après, je suis d'accord avec vous, mais il faudra ouvrir un débat Ronaldo, qui à mon avis n'est pas un avantage pour les équipes, pour l'équipe dans laquelle il joue. On l'a vu avec la Juve, c'est-à-dire qu'il il annihile quand même l'esprit collectif, parce que son individualité est trop forte, et on l'a vu dans le jeu, on essaye de le rechercher, et quand il a un jour sans, parce qu'hier il a eu un jour sans, mal positionné, beaucoup de hors-jeu, de mauvais choix, et en plus il aurait dû être expulsé, du coup l'équipe ne tient plus debout, et c'est terrible.
Ça demanderait un podcast à lui seul, Ronaldo.
Voilà, on sent le fan de la Juve déçu.
Ah, mais c'est exactement ça. Il y a son retour à Manchester United, ses buts en Ligue des Champions à dernière minute, c'est très beau pour le storytelling, et même ça fait de belles images. Mais dans un sens, c'est vrai que c'est un joueur qui forcément va focaliser l'attention. Les milieux de terrain, les ailiers vont constamment le chercher. Et mine de rien, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions par les ailes, tout ça, parce que Manchester United, c'est quand même une équipe qui a la tradition, je pense, d'avoir ses joueurs de côté percutants. Et Ronaldo l'était il y a 15 ans, aujourd'hui il ne peut plus faire ces efforts-là, et c'est vrai que ça va poser des problèmes, mais je pense que United, le mal est beaucoup plus profond que Ronaldo.
Regardez l'image de Sir Ferguson dans les tribunes qui est complètement dépité, parce que depuis qu'il est parti, c'est vraiment c'est la chute. Hein.
Tu superposais ça avec le grand sourire de Kenny Dalglish, qui à côté était hilar, c'est vrai que ça faisait un beau contraste.
Notre anglais à la VAR, parce que Clément, notre Clément l'anglais, qui vous ne le voyez pas, mais il a une classe et un style toulondonien dans ses vêtements. Ton avis sur Manchester, Barcelone?
Je pensais plus à parler de Barcelone parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un très sensible et quand je vois que Agüero qui a signé cette année, je me dis mais qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère, Kun Agüero, quoi, c'est fou. Et même fils de Paris, pareil, à la limite, pourquoi quitter? Alors, pardon, c'est la Ligue 1, mais pourquoi quitter l'Olympique Lyonnais qui a un projet de jeu cette année qui est très intéressant, avec un entraîneur qui est assez béton? Franchement, je me dis, mais il doit presque regretter d'être parti à Barcelone, c'est terrible.
Parce qu'apparemment, Agüero a quand même baissé son salaire pour venir et pour que Messi reste et pas rester.
C'est fou.
Non, c'est incroyable. Enfin, il faudra suivre Barcelone, ça peut être un bon feuilleton de cette saison de foot. Maintenant, vous connaissez, vous en avez l'habitude, c'est parti.
Deux minutes de bonheur en plus.
Alors, nous avons un choc. Alors, est-ce que c'est vraiment un choc vendredi soir? On ne sait pas. Mais en tout cas, nos deux prétendants et concurrents à la Ligue des Champions s'affrontent. PSG-Lille vendredi. Donc on va essayer de pronostiquer ce match avec le PSG qui a des problèmes de jeu, on en a parlé, et Lille qui n'avance pas en ce début de saison. Est-ce que Lille peut refaire l'exploit de l'an dernier, Julien?
Non.
Non. Victoire du PSG.
Victoire du PSG sans aucun problème et je m'attends pas à un grand match.
Ah, ça nous aurait étonné. Thomas?
Pareil, entre deux grands malades, je pense que le PSG l'emportera, mais à mon avis, ça va pas être terrible.
Adrien?
Ouais, on l'a dit, le PSG n'est pas au point, mais du côté du LOSC, c'est tout aussi inquiétant. Et on se souvient de leur belle victoire l'année dernière au Parc, avec cette colonne vertébrale, Galtier qui avait vraiment trouvé un esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a totalement perdu, alors qu'il n'y a que Maignan et Soumaré qui sont partis. Donc je vois le PSG l'emporter, parce que le LOSC n'y est vraiment pas dans cette première partie de saison.
À l'image de Yilmaz, qui est fantomatique.
Ouais, pourquoi il n'y arrive plus? C'est ma question, ça.
Peut-être le coach, Jocelyn Gourvennec, que Adrien connaît bien à Bordeaux.
Bah, Gourvennec, c'est ça, c'est que vous allez avoir partout une forme d'empathie. Tout le monde dit que, et je pense que c'est le cas, hein, c'est quand même quelqu'un d'humain qui essaie d'avoir une approche avec les joueurs, qui est apprécié par le staff, par l'ensemble du club. Mais ses recettes, je pense qu'elles ne marchent plus parce qu'à Guingamp, voilà, il a quand même emmené cette équipe en Coupe d'Europe et c'est honorable. À Bordeaux, il a fait de bonnes choses la première saison, mais après, il s'est écroulé parce qu'il avait les clés pour le mercato. Et à Lille, je pense que le projet est tout simplement trop grand, pour lui, parce que voilà, le LOSC avait d'autres attentes, et c'est vrai que Gourvennec, on l'avait quitté avec une relégation à Guingamp, et aujourd'hui, on sent qu'il n'arrive pas à imposer sa patte.
Alors, vous savez que sur TF1, le vendredi, c'est Danse avec les stars. Et bah, je pense que pour Lille, vendredi, ce sera Transe avec les stars, parce que Lille va l'emporter. Parce que Lille, je vous rappelle, dans les gros matchs, on a vu contre Marseille, ils sont là, ils répondent présents, donc pourquoi pas l'orgueil du champion. Donc moi, j'annonce une victoire de Lille. De toute façon, je me suis toujours trompé, donc... Voilà, allons-y gaiement. Merci à tous d'avoir été autour de la table. Alors, on ne vous dit pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on se repose. C'est un jour férié. Donc, ne regardez pas de foot, n'écoutez pas de foot, puisqu'on revient dans 15 jours. Et en attendant, passez une très belle semaine. Il y a notamment un Nice-Marseille, match en retard, qui peut être pas mal. Voilà, salut.
Salut.
Bonne semaine à tous.
Salut.
Le point.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.